Chapitre 6. Patrick Danville. 1. Elle n'avait pas son arme sur elle. Joe avait insisté pour qu'elle prenne le fauteuil inclinable quand ils étaient passés au salon après le dîner, et elle avait déposé le revolver sur la petite table recouverte de magazines après avoir vidé le barillet de ses balles. Balles qu'elle avait toujours dans sa poche. Susanna ouvrit la porte de la salle de bain à la volée et se précipita en rampant dans le salon. Roland gisait à terre entre le canapé et le poste de télévision, et son visage avait pris une teinte violette effroyable. Il tenait sa gorge enflée à pleine main en riant toujours. Leur hôte se tenait penché au-dessus de lui, et la première chose qu'elle remarqua, c'est que ses cheveux de bébé, blancs et fins, lui tombant sur les épaules, était à présent presque entièrement noir. Les rides autour de ses yeux et de sa bouche s'étaient comblées. Joe Collins n'avait pas l'air plus jeune de 10 ans, mais de 20 ou 30, ce salopard de vampire. Otte bondit et attrapa la jambe de Joe juste en dessous du genou.
25, 64, 19, et ça y va!
S'écria Joe, plein de bonne humeur, en secouant violemment la jambe avec la souplesse de Fred Astaire. Otte vola dans l'air et alla s'écraser contre le mur avec une telle force qu'il fit tomber au sol une plaque portant l'inscription « Dieu bénisse ce foyer ». Joe se retourna vers Roland.
« Moi, ce que je crois, c'est que les femmes, il leur faut une bonne raison pour faire l'amour »,
dit-il en posant le pied sur la poitrine de Roland.
« Comme un grand chasseur blanc avec son trophée de chasse, » se dit Susanna. « Alors que les hommes, il leur faut juste un endroit. Pan !»
Il loucha. « Le truc avec le sexe, c'est que Dieu a donné aux hommes un cerveau et une bite, mais juste assez de sang pour en alimenter un seul à la f... » Il ne l'entendit pas approcher, ni se hisser sur le fauteuil inclinable pour se mettre à hauteur suffisante. Il était trop absorbé par ce qu'il était en train de faire. Susanna noua les mains en poing, le leva à hauteur de son épaule droite, puis l'abattit de côté avec toute la force qu'elle put mobiliser. Le premier coup cueillit Joe à la tempe et suffit à l'abrutir. Elle avait frappé directement sur de l'os, et la douleur qui lui traversa la main était une torture. Joe vacilla en agitant les bras pour retrouver son équilibre et lui lança un regard de côté. Sa lèvre supérieure se souleva, découvrant ses dents. Des dents parfaitement ordinaires, et qu'y avait-il là de plus surprenant? Il n'était pas de ce genre de vampires qui se nourrissent de sang. On était à Empatica, après tout, et le visage de l'homme était en pleine transformation. Il prenait une teinte sombre, se contractait, perdait toute apparence humaine. C'était le visage d'un clown psychotique.
« Toi !» lança-t-il.
Mais sans lui laisser le temps d'ajouter quoi que ce soit, Otte se précipita de nouveau. Cette fois-ci, le bafouilleux n'eut pas à montrer les dents, car Joe titubait toujours. L'animal s'accroupit derrière lui et dans l'eau bascula tout bonnement en arrière. Ses injures cessèrent net lorsque sa tête heurta le sol. Sans le tapis qui recouvrait le bois du plancher, le choc aurait sans doute suffi à l'assommer. Au lieu de quoi, il se força presque immédiatement à se rasseoir et balaya les alentours du regard, l'air sonné. Susanna se pencha auprès de Roland, qui tentait lui aussi de s'asseoir, mais sans grand succès. Elle attrapa l'arme dans le holster du pistolero, mais il referma la main sur son poignet avant qu'elle ait pu l'en extraire. Par instinct, bien sûr, et il fallait s'y attendre. Mais Susanna sentit la panique la gagner lorsque l'ombre de Dandelot se dessina au-dessus d'eux.
« Espèce de chienne, je vais t'apprendre à interrompre un homme en plein... »«
Roland, lâche-le » hurla-t-elle. Et c'est ce qu'il fit. Dandelot plongea avec l'intention de leur tomber dessus et d'écraser l'arme entre les deux pistoleros, mais elle fut trop rapide d'une seconde. Elle roula sur le côté et il atterrit sur Roland seul. Susanna entendit un ouf de torture alors que le pistolero perdait à nouveau son souffle. Haletante, elle se souleva sur un bras et pointa son arme sur l'homme au-dessus, celui qui sous ses yeux était sujet à une mutation laborieuse et spectaculaire.
Dandelot leva ses mains qui étaient vides. Bien sûr qu'elles l'étaient, puisqu'il ne se servait pas de ses mains pour tuer. Et c'est alors que ses traits se rejoignirent, comme des dessins à la surface de l'eau. Non plus les traits d'un visage, mais les motifs sur la peau d'un animal ou la carapace d'un insecte. « Arrêtez !» hurla-t-il d'une voix suraiguë qui rappelait le bourdonnement d'une cigale. « Il faut que je vous raconte celle de l'archevêque et de la chanteuse. »
« On la connaît !»
asséna-t-elle avant de tirer deux fois, lui envoyant coup sur coup deux balles droit dans la cervelle, juste au-dessus de ce qui avait été son œil droit. 2. Roland se remit sur pied tant bien que mal. Sa chevelure collait à son visage enflé. Lorsqu'elle essaya de lui prendre la main, il la repoussa d'un geste et se dirigea en titubant jusqu'à la porte de la maisonnette, qui paraissait à présent miteuse et baignée d'une lumière trop blanche. Susanna aperçut des taches de nourriture sur le tapis et une large auréole humide sur un mur. Est-ce que tout ça était déjà là, avant? Et grand Dieu, qu'avait-il mangé exactement pour le dîner? Elle préférait ne pas savoir, du moment que ça ne la rendait pas malade. Du moment que ce n'était pas empoisonné. Roland de Gilead ouvrit la porte. Le vent la lui arracha des mains et l'envoya percuter le mur dans un grand boum. Il fit deux pas hésitants dans la tempête de neige mugissante, se pencha en avant, les mains sur les cuisses et vomit. Elle vit jaillir le jet de nourriture et le vent le disperser dans le noir. Lorsque Roland rentra dans la pièce, le côté de son visage et sa chemise étaient constellés de neige. À l'intérieur, c'était une véritable fournaise. Encore une chose que leur avait caché le glam de Dandelot. Elle vit un thermostat sur le mur. Un vieil Honeywell, assez semblable à celui qu'elle avait dans son appartement new-yorkais. Elle constata qu'il avait été poussé à fond, au-delà de la marque des 30 degrés. Du bout du doigt, elle le baissa à 20, puis se retourna pour balayer la pièce du regard. La cheminée était en fait deux fois plus grande qu'elle aurait été d'abord apparue, et remplie d'assez de bûches pour faire rugir un haut fourneau. Elle ne pouvait rien y faire pour l'instant, mais le feu finirait bien par s'éteindre. La chose morte sur le tapis avait presque littéralement explosé hors de ses vêtements. Susanna lui trouvait à présent des airs de gros insectes recouverts d'appendices tordus qui auraient pu ressembler à des bras et à des jambes, jaillissant des manches de chemise et du jean. Le dos de la chemise s'était déchiré au milieu et, ce qu'elle vit dans la fente du tissu, c'est une sorte de coquille sur laquelle s'imprimaient des traits humains grossiers. Elle ne croyait pas qu'il pût exister plus horrible que Mordred sous sa forme araignée, mais cette chose était indéniablement pire. Dieu merci, elle était morte. La maisonnette bien éclairée et bien ordonnée, comme sortie d'un conte de fées. Comment n'y avait-elle pas vu plus clair dès le début? N'était plus qu'une cabane de paysans sombre et enfumée. Les lumières électriques fonctionnaient toujours, mais elles paraissaient fatiguées et blafardes, comme ces appliques qu'on trouve dans les asiles de nuit. Le tapis était noir de crasse et constellé de taches de nourriture, et s'effilochait par endroits.
« Roland, tu vas bien ?»
Roland la regarda, puis, doucement, s'agenouilla devant elle. Pendant une seconde, elle crut qu'il était en train de s'évanouir et en fut alarmée. Lorsqu'un instant plus tard, elle prit conscience de ce qui était réellement en train de se passer, elle en fut encore plus alarmée.
« Pistolero, j'ai été stupéfié, »
dit Roland d'une voix rauque et tremblante.
« Je me suis fait piéger comme un enfant et j'implore ton pardon. »
Oh, Lent, non, lève-toi!
C'était d'état, comme à chaque fois que Susanna se retrouvait dans une situation très éprouvante. Elle pensa.
C'est un miracle que je ne lui ai pas lancé un lève-toi, sale blanc.
Et elle dut réprimer un éclat de rire hystérique. Il n'aurait pas compris.
Accorde-moi d'abord ton pardon,
dit Roland sans la regarder.
Elle farfouilla dans sa mémoire et finit par y trouver la formule consacrée, ce qui fut un réel soulagement. Elle ne supportait pas de le voir agenouillé de la sorte.
« Lève-toi, pistolero, je t'accorde le pardon de bon cœur. »
Elle fit une pause puis ajouta
« Si je te sauve la vie à nouveau 9 fois, nous serons presque quittes. »
« À côté de ton cœur généreux, le mien me fait honte, » dit-il en se levant.
L'horrible couleur violette disparaissait progressivement de ses joues. Il jeta un œil à la chose sur le tapis qui, à la lueur des flammes, projetait son ombre grotesque et difforme sur le mur. Il balaya du regard l'intérieur de la petite cabane avec son aménagement vieillot et ses ampoules défaillantes.
« Ce qui nous a servi n'était pas empoisonné, »
dit-il comme s'il avait lu dans les pensées de la jeune femme et y avait découvert sa pire peur.
« Il n'aurait jamais empoisonné ce qu'il avait l'intention de manger. »
Elle lui tendait son arme crosse en avant. Il s'en empara et remplit les 2 chambres vides avant de la rengainer dans son holster. La porte d'entrée était toujours ouverte et la neige s'engouffrait à l'intérieur en tourbillon. Elle avait déjà dessiné un delta blanc dans le petit vestibule où étaient suspendus leurs manteaux de peau fait maison. La pièce s'était déjà un peu refroidie et faisait moins penser à un sauna.
« Comment as-tu su ? » demanda-t-il.
Elle repensa à l'hôtel où Mia avait laissé la 13e noire. Plus tard, après leur départ, Jack et Callahan avaient pu pénétrer dans la chambre 1919 parce que quelqu'un leur avait laissé un message et...
À ce que châle,
une clé. Le nom de Jack, ainsi que la phrase « C'est la vérité » était inscrit sur l'enveloppe, en partie à la main et en partie tapé à la machine. Elle était certaine que, si elle tenait en ce moment la dite enveloppe et qu'elle la comparait au message qu'elle avait trouvé dans la salle de bain, elle constaterait que c'était la même main qui avait rédigé les 2. Selon Jake, l'employé au guichet du Plaza Park de New York leur avait dit que c'était un certain Stephen King qui avait déposé la lettre.
« Suis-moi, dans la salle de bain. »
3. Comme le reste de la cabane, la salle de bain était plus petite à présent, à peine plus spacieuse qu'un placard. La baignoire était vieille et rouillée, recouverte d'une fine couche de crasse au fond. On aurait dit qu'elle n'avait plus servi depuis... À dire vrai, Susanna aurait presque juré qu'elle n'avait jamais servi. La pomme de douche était constellée de rouille. Le papier peint rose était terne et sale et se décollait par endroits. Les motifs de rose avaient disparu. Le miroir était toujours là, mais une fissure le zébrait de haut en bas, et elle se dit que c'était un miracle qu'elle ne se soit pas ouvert le doigt en écrivant dessus. La vapeur de son souffle s'était dissipée, mais les mots étaient toujours visibles, se détachant sur fond de crasse. La donde. Et en dessous, dans de l'eau.
« C'est une anagramme, »
dit-elle.
« Tu vois ?»
Il examina le miroir, puis secoua la tête, l'air un peu honteux.
« Ce n'est pas ta faute, Roland. Ce sont nos lettres à nous, pas celles que tu connais. Mais tu peux me croire sur parole, c'est bien une anagramme. Eddie l'aurait vu tout de suite, je serais prête à le parier. Je ne sais pas si c'est ce que Dandelot considère comme une bonne blague, ou bien s'il existe des règles que les créatures du glam telles que lui sont censées suivre. » Mais le fait est qu'on a fini par découvrir le poteau rose avec un peu d'aide de Stephen King.
C'est toi qui l'as découvert. Moi, j'étais trop occupé à me rouler par terre, à en mourir.
Nous aurions fait pareil tous les 2, rectifia-t-elle. Tu étais juste un peu plus vulnérable à cause de ton sens de l'humour plus... moins... Pardonne-moi, Roland, mais on va dire qu'en général, tu as un humour plutôt vaseux.
Je le sais très bien,
dit-il d'un air désolé. Puis il pivota brusquement et quitta la pièce. Une idée effroyable traversa l'esprit de Susanna, et l'absence du pistolero lui parut durer une éternité.
« Roland, est-ce qu'il est toujours ?»
Il hocha la tête, un léger sourire aux lèvres.
« Aussi mort qu'on peut l'être. Tu as bien tiré, Susanna. mais tout à coup j'ai eu besoin de m'en assurer.
J'en suis contente,
dit-elle simplement. Ôtez, monte la garde. S'il devait se passer quoi que ce soit, je suis certain qu'il nous en avertirait.
Il ramassa le petit mot sur le sol de la salle de bain et étudia attentivement l'inscription au verso. La seule expression qui requit l'aide de Susanna fut « armoire à pharmacie ».
« J'ai laissé quelque chose pour toi. Tu sais ce que c'est ?»«
Je n'ai pas eu le temps de regarder, »
dit-elle en secouant la tête.
« Où se trouve l'armoire à pharmacie ?»
Elle désigna le miroir et Roland le fit pivoter. Il grinça sur ses gonds. Il découvrit effectivement des étagères derrière, mais au lieu d'une enfilade soignée de boîtes de cachets et de bouteilles de remèdes, comme Susanna l'avait imaginé, ils ne virent que deux bouteilles marron, comme celles sur la petite table près du fauteuil inclinable, et ce qui sembla à Susanna la plus vieille boîte de pastilles contre la toux à la cerise des frères Smith. Il y avait également une enveloppe cependant, et Roland la lui tendit. Sur le recto de ce même mélange d'écriture et de mots tapés à la machine, apparaissait le message suivant. Chevalier Roland de Gilead, Susanna Dean de New York, vous m'avez sauvé la vie, j'ai sauvé les vôtres, nous sommes quittes. S.K.
Chevalier ?
Demanda-t-elle.
Est-ce que ça veut dire quelque chose pour toi ?
Il hocha la tête.
C'est un terme qu'on utilise en parlant des pistoleros en quête. C'est un terme de cérémonie et très ancien. Nous ne l'utilisions jamais entre nous. Et intuite le bien, car il signifie saint, choisi par le cas. Nous n'aimions pas nous considérer en ces termes-là, et je n'ai plus repensé à ce mot depuis de nombreuses années.
Pourtant, tu es bien chevalier Roland ?
Je l'ai peut-être été autrefois. Nous sommes au-delà de ces choses-là à présent, au-delà du cas.
Mais toujours sur le sentier du rayon.
Si fait.
Du doigt, il suivit la dernière ligne inscrite sur l'enveloppe. Nous sommes quittes.
Ouvre-la, Susanna, car j'aimerais voir ce qu'elle contient.
Elle s'exécuta.
4.
Il s'agissait d'une photocopie d'un poème de Robert Browning. King avait écrit le prénom du poète à la main et son nom à la machine, juste au-dessus du titre. Susanna avait lu des monologues de théâtre de Robert Browning à la fac, mais elle ne connaissait pas ce poème-ci. Elle en maîtrisait néanmoins parfaitement le sujet. Le titre en était « Le chevalier Roland s'en vint à la tour noire ». La structure en était narrative, le schéma des rimes était celui de la ballade. A, B, B, A, A, B. Et il se composait de 34 strophes. Chacune était numérotée en chiffres romains. Quelqu'un, King sans doute, avait entouré les strophes 1, 2, 13, 14 et 16.
Lis celles qui sont cochées, dit-il d'une voix rauque, parce que je n'arrive à déchiffrer qu'un mot par-ci par-là et que j'aimerais savoir ce qu'elles disent. J'y tiens beaucoup.
Strophe première,
dit-elle. Puis elle dut s'éclaircir la gorge car elle était très sèche. Dehors, le vent mugissait et la lumière de l'ampoule nue se mit à trembloter dans son applique incrustée de mouches.
Je pensais, il a menti en chaque mot, l'hideux infirme. De son œil qu'il disait voilé par le songe. De biais contemplait l'effet de ses mensonges. Sur moi, et sa bouche incapable de masquer les chaos de sa liesse, qui secouait et tordait son corbeau devant l'agonie de la victime que la mort ronge.
« Collins, dit Roland, quel que soit l'auteur de ce poème, il parlait de Collins. » Aussi sûrement que King parle de notre cathète dans ses histoires. Il a menti en chaque mot. Si fait, c'est bien ainsi.
Pas Collins,
corrigea-t-elle.
Dans de l'eau.
Roland opina.
Dans de l'eau, tu dis vrai. Poursuis, je te prie.
Ok. Strophe deuxième. Quel autre dessein eût pu animer ce menteur diabolique ? de son bâton dressé tel un attrape-foudre furieux, il leurre, menace et séduit le curieux, qui demande son chemin. Et ce rire satanique graverait, je n'en doute, l'épitaphe véridique, relatant ma venue en ces maudits lieux.
Est-ce que ça ne te rappelle pas son bâton et sa façon de l'agiter ? Lui demanda Rolint.
Bien sûr que si.
Et notre voix enneigée est bien le chemin dont il parle. C'était une description de ce qui venait juste de leur arriver. Cette idée la fit frissonner. C'était un poète de ton temps ? Demanda Rolint. De ton camp ?
Elle secoua la tête. Il n'était même pas de mon pays. Il est mort au moins 60 ans avant mon camp.
Pourtant, il a dû voir ce qui s'est passé, une version de ce qui s'est passé au moins.
Oui. Et Stephen King connaissait ce poème.
Elle eut soudain une intuition tellement aveuglante qu'elle ne pouvait être que la vérité. Elle contempla Rolint avec des yeux écarquillés, contenant difficilement son excitation.
C'est ce poème qui a incité King à écrire, qui l'a inspiré.
Tu dis ainsi, Susanna ?
Oui.
Pourtant, ce Browning a bien dû nous voir, nous.
Elle n'en savait rien. C'était trop troublant, comme essayer de déterminer qui était venu en premier, de l'œuf et de la poule. Ou comme se retrouver perdu dans un labyrinthe de miroirs. Elle avait la tête qui tournait.
Lis le texte suivant, Susanna. Lis Croix 111.
C'est la strophe 16, dit-elle. Quant à l'herbe, elle poussait et il est vrai aussi maigre que son pelage, frappé de lèpre, des brins épars perçaient la boue, qui paraissait pétrie de sang par-dessous. Une rosse aveugle, dont chaque os saillait comme après le carnage, se tenait en stupeur, frappée par un mirage. Chassé du haras du diable même à grand renfort de coups.
À présent, s'il te sied, la strophe 14e je livre à ta perspicacité.
Vivant, l'animal à mes yeux pouvait avoir péri sans un pleur, décharné, la carcasse saignant et d'un spectre ayant l'air, il gardait les yeux clos sous une immonde crinière. Alliance incongrue du ridicule et de pareille douleur. Jamais je ne vis brute aussi digne d'être frappé de malheur. Il fallait qu'il fût bien maléfique pour mériter tel salaire.
Insolente, dit le pistolero avec un mouvement du pouce par-dessus l'épaule. Cette vieille carcasse avec son immonde crinière, tout est là, sauf qu'elle est femelle au lieu de mâle.
Elle ne répondit rien. Nul besoin de répondre. C'était bien insolente à l'évidence. Aveugle et osseuse, le cou brûlé par endroits, découvrant la peau rose.
« Elle est pas bien belle, je sais, »
avait dit le vieillard. Enfin, cette chose qui avait l'apparence d'un vieillard.
« Espèce de vieille qui boite et de clapet à foutre, espèce de canasson lépreux à quatre pattes. »
Et voilà qu'elle apparaissait noir sur blanc dans ce poème écrit bien avant la naissance même de Cy King, peut-être même 80 ou 100 ans avant qu'il voie le jour. Son pelage, frappé de lèpre.
« Chassé du haras du diable même, » dit Rolint avec un sourire amer. « Et même si elle n'a jamais couru et ne courra jamais, il se pourrait bien qu'on la voie revenir avec le diable avant notre départ. »
« Non, » dit-elle, « ça n'arrivera pas. »
Elle avait la voix plus sèche que jamais. Elle avait besoin d'un verre, mais maintenant elle avait peur d'ingurgiter quoi que ce soit coulant des robinets de cette horrible bouge. Elle irait chercher de la neige et la ferait fondre plutôt, et alors elle pourrait boire, mais pas avant.
« Pourquoi dis-tu ça ?»«
Parce qu'elle est partie. Elle est sortie dans la tempête quand on a réglé son compte à son maître. »«
Comment le sais-tu ?»
Susanna secoua la tête.
« Je le sais, c'est tout. »
Elle tourna la page, cherchant la strophe suivante parmi ses 200 lignes.
Strophe 16e.
Elle s'interrompit.
« Susanna, pourquoi est-ce que tu...
Puis ses yeux se posèrent sur les mots suivants qu'il parvenait à déchiffrer, même dans ces lettres-ci.
« Lis, » dit-il dans un murmure à peine audible.
« Tu es certain ?»«
Lis, car je veux entendre. »
Elle se racla la gorge.
Strophe 16e. Pas cela. Je ne pus détacher mon regard incertain de la face rougie de Cuthbert, sous les boucles d'or, cher compagnon, qui jadis fâché dans un ultime effort, glissa. Je le sentis, son beau bras sous le mien. Car ainsi il était, tout sourire, même quand périt le bien. Et avec lui mon cœur à peine éveillé dans le souffle du corps.
Il parle de Mérisse, dit Ralint.
Il serrait les poings, mais elle doutait qu'il s'en rendît compte.
Il raconte notre brouille au sujet de Suzanne Delgado, car ensuite plus rien n'a été comme avant entre nous. Nous avons réparé notre amitié de notre mieux, mais non, ça n'a jamais plus été pareil.
Après que la femme vient à l'homme ou l'homme à la femme, je crois que plus rien ne peut plus être pareil,
dit-elle en lui tendant les feuilles photocopiées.
« Prends ça. J'ai lu toutes celles qu'il avait soulignées. Si dans le reste il parle d'arriver à la tour sombre, ou pas justement, tu n'as qu'à chercher par toi-même. Tu y arriveras avec quelques efforts, j'en suis sûr. En ce qui me concerne, je ne veux pas savoir. »
Mais Roland si visiblement. Il parcourut les pages, puis se rendit à la dernière strophe. Les pages n'étaient pas numérotées, mais il trouva la fin sans trop de difficulté, car un espace blanc suivait la strophe 34e. Néanmoins, avant qu'ils se mettent à la lecture, ils entendirent de nouveau résonner le gémissement. Entre-temps, le vent était complètement tombé, et la provenance du bruit ne faisait plus aucun doute.
« Il y a quelqu'un en dessous de nous, dans la cave, » dit Ralint.
« Je sais. » Et je crois savoir qui c'est. »
Il hocha la tête. Elle le regardait sans ciller.
Tout colle, pas vrai? C'est comme un puzzle. Et il ne nous manque plus que les dernières pièces.
Le gémissement monta de nouveau, égaré, affaibli. C'était le gémissement de quelqu'un à l'article de la mort. Ils sortirent de la salle de bain en dégainant leurs armes. Mais Susanna ne pensait pas qu'ils en auraient besoin, cette fois-ci. 5. L'insecte qui avait volé l'apparence d'un vieux comique du nom de Joe Collins était toujours étendu au même endroit. Mais Otey avait reculé d'un pas ou deux. Et Susanna ne pouvait l'en blâmer. Dents de l'eau commençaient à puer et de petits ruisselets de matière blanche suintaient de sa carapace en décomposition. Roland ordonna cependant au bafouilleux de rester où il était et de continuer à monter la garde. Le cri résonna de nouveau alors qu'ils atteignaient la cuisine. Plus fort cette fois-ci. Mais ils ne virent d'abord pas comment descendre à la cave. Susanna parcourut lentement toute la surface de linoléum sale et craquelé à la recherche d'une trappe. Elle allait dire à Roland qu'il n'y avait rien quand il s'exclama «
Ici, derrière la boîte à froid ».
Le réfrigérateur n'était plus un Amana dernier cri avec compartiment à glaçons dans la porte, mais un vieil appareil sale et trapu avec circuit de refroidissement externe posé sur le dessus dans un caisson en forme de tambour. La mère de Susanna en avait un pareil quand elle était encore une petite fille répondant au prénom d'Odetta. Mais sa mère serait morte plutôt que d'avoir laissé s'accumuler le 10e de la crasse qui recouvrait celui-ci, le 100e même. Roland le déplaça sans mal, car dans de l'eau, ce monstre fourbe l'avait placé sur une petite plateforme à roulettes. Elle doutait qu'il ait eu beaucoup de visites, pas ici, au fin fond du monde ultime, mais il s'était préparé à garder ses secrets, si quelqu'un venait bel et bien à passer par là. Et elle était sûre qu'il y avait quelques Folken de temps à autre. Peu d'entre eux, aucun même, devaient poursuivre leur route après avoir croisé la petite cabane sur la ronde. Les escaliers étaient raides et étroits. Roland palpa le mur près de la porte et trouva un interrupteur. Deux ampoules nues s'allumèrent.
l'une à mi-descente, l'autre plus bas. Comme en réponse à la lumière, le gémissement se fit de nouveau entendre. Une complainte remplie de douleur et de peur, mais aucun mot distinct. Le son la fit frissonner. « Venez au pied de l'escalier, qui que vous soyez !» lança Roland. Aucune réaction venant d'en bas. Dehors, le vent faisait rage et poussait des hurlements, jetant des rafales gorgées de neige avec une telle force que ça aurait pu être du sable.
« Montrez-vous à notre vue, ou bien nous vous laisserons là où vous êtes !» reprit Roland.
L'occupant de la cave ne vint pas dans la lumière maigre, mais poussa un nouveau cri, une litanie chargée de malheur, de terreur et, craignit Susanna, de démence. Le pistolero lui lança un regard. Elle opina et répondit dans un chuchotement
« Passe en premier, je te couvrirai si nécessaire.
« Fais attention aux marches, ne tombe pas, »
dit-il à voix tout aussi basse. Elle opina de nouveau et lui emprunta son moulinet impatient de la main qui voulait dire « Allons-y, allons-y !» L'ombre d'un sourire passa sur les lèvres du pistolero. Il se mit à descendre les escaliers, le canon de son arme calé sous son aisselle droite, et pendant une seconde, il ressembla tellement à Jack Chambers qu'elle en aurait pleuré. 6. La cave était un labyrinthe de cartons et de barils, et une ribambelle de crochets pendait du plafond. Susanna n'avait aucune envie de savoir ce qui était suspendu. Le gémissement se fit plus présent, entre sanglots et hurlements. Au-dessus d'eux, maintenant assourdis, le chant haletant du vent tourbillonnait toujours autour de la maison. Roland tourna à gauche et se fraya un chemin dans un couloir encombré de piles de cageots couvrant les deux murs. Susanna le suivait, laissant une bonne distance entre eux, vérifiant sans arrêt par-dessus son épaule. Elle restait attentive à une éventuelle intervention dotée. Elle aperçut une pile de cageots avec l'inscription « Texas Instruments » tracée au feutre, et une autre « Au fat, biscuit surprise chinois ». Elle ne fut pas étonnée de reconnaître le nom comique de leur taxi abandonné depuis longtemps. Elle avait passé de très loin le cap de l'étonnement. Devant elle, Roland s'immobilisa.
« Par les larmes de ma mère »,
laissa-t-il échapper à voix basse. Elle ne l'avait entendu utiliser cette expression qu'une seule fois auparavant, lorsqu'ils avaient croisé un cerf tombé dans un ravin, allongé là avec les postérieurs et un antérieur brisé, mourant de faim et les fixant de son regard mort, car les mouches lui avaient mangé les yeux vivants. Elle demeura où elle était jusqu'à ce qu'il lui fît signe de s'approcher, et s'empressa de le rejoindre, se tractant sur les paumes. Dans le coin du mur de pierre de la cave de Dandelot. Le coin sud-est, si elle avait gardé le sens de l'orientation, se trouvait une cellule de prison improvisée. La porte était composée de barres d'acier entrecroisées. Non loin, elle aperçut la table de soudure dont Dandelot avait dû se servir pour la réaliser, mais bien longtemps auparavant, à en juger par l'épaisse couche de poussière qui s'était déposée sur le réservoir d'acétylène. Accrochée à un large crochet en forme de S, planté dans le mur de pierre, juste hors de portée du prisonnier, mais pas assez près pour le narguer, Susanna en fut certaine. Pendait une grosse et vieille.
Escuchule, escuchic,
clé en argent. Le prisonnier en question se tenait juste derrière les barreaux de sa prison, tendant vers eux ses mains répugnantes. Il était si squelettique qu'il rappela à Susanna ses effroyables photos de camps de concentration qu'elle avait vues autrefois, les images des survivants d'Auschwitz, de Bergen-Belsen et de Buchenwald. Accusation vivante, survivante de l'humanité dans son ensemble, avec leurs uniformes rayés flottant autour de leurs corps décharnés et leurs effrayantes calottes de portier, et ses yeux terriblement brillants et vifs, remplis d'une conscience implacable.
Nous aurions voulu ne jamais voir ce que nous sommes devenus, disaient ses yeux. Pourtant, il le faut.
Il y avait une lueur de ce genre dans les yeux de Patrick Danville, tandis qu'il tendait les mains vers eux en poussant sa complainte indicible. En écoutant plus attentivement, elle trouva que ses cris ressemblaient au gloussement moqueur d'un oiseau tropical de dessin animé ou de bande originale de film.
« Hi-hi, hi-hi, hi-yok, hi-yok. »
Roland décrocha la clé de son piton et se dirigea vers la porte. L'une des mains de Danville s'accrocha à sa chemise et le pistolero la repoussa. « Nulle colère dans ce geste, » remarqua-t-elle. Pourtant, l'être famélique dans la cellule recula, les yeux saillants de leurs orbites. Il avait les cheveux longs. Il pendait jusqu'en dessous des épaules, mais quasiment pas de barbe, hormis un très léger duvet sur les joues. Il devenait un peu plus dense sur le menton et au-dessus de la lèvre supérieure. Susanna lui donnait environ 17 ans, mais guère plus.
« Il n'y a pas de mal, Patrick, » dit Roland sur le ton de la conversation, en enfonçant la clé dans la serrure. « Es-tu Patrick ? Es-tu Patrick Danville ?»
La chose squelettique en jean sale et chemise grise beaucoup trop large, elle lui pendait quasiment aux genoux, recula sans répondre jusque dans le coin de sa cellule triangulaire. Lorsque son dos heurta le mur, il glissa lentement en position assise contre ce que Susanna identifia comme son seau à excréments. Le tissu de sa chemise flotta puis lui glissa entre les jambes comme de l'eau lorsqu'il remonta les genoux quasiment à hauteur de sa tête, encadrant son visage émacié et terrifié. Quand Roland ouvrit la porte de la cellule et la tira vers lui aussi loin que possible, elle n'avait pas de gonds. Patrick Danville reprit ses piaillements d'oiseau, mais cette fois beaucoup plus fort.
« Hi! Hi-youk! Hi! »
Susanna grinça des dents. Roland fit alors mine de pénétrer dans la cellule, et le garçon émit un hurlement encore plus perçant et se mit à se taper l'arrière du crâne contre le mur de pierre. Roland recula hors de la cellule. L'horrible va-et-vient cessa, mais Danville posait toujours sur l'inconnu un regard rempli de méfiance et de peur. Puis il tendit de nouveau devant lui ses mains crasseuses aux longs doigts fins, comme pour demander assistance. Roland se tourna vers Susanna. Elle s'avança en appui sur les mains jusqu'à la porte de la cellule. Le garçon décharné, tapi dans son coin, poussa un nouveau cri d'oiseau et replia ses mains suppliantes, les croisant sur son torse en un geste de défense pathétique.
« Non, Tessa. »
C'était là une d'état Walker que Susanna n'avait jamais entendue auparavant, dont elle n'avait même pas soupçonné l'existence.
« Non, Tessa, on va pas te faire de mal. »
Si je voulais te faire du mal, je t'en collerais deux dans la tête comme j'ai fait avec cet enculé là-haut.
Elle décela quelque chose dans ses yeux. Peut-être les écarquilla-t-il un instant, révélant le blanc injecté de sang. Elle sourit et hocha la tête.
Ouais, mais si Collins lui mord, il descendra plus jamais ici pour...
Pour quoi? Qu'est-ce qui t'a fait, Patrick?
Au-dessus de leur tête, assourdis par les pierres, le vent tambourinait. Les lumières vacillèrent. Toute la maison craqua et gémit en signe de protestation.
« Qu'est-ce qui t'a fait, mon garçon ?»
Peine perdue. Il ne comprit pas. Elle cherchait déjà un autre angle d'approche quand Patrick Danville porta les mains à son estomac et le serra. Ses traits se tordirent comme en une crampe dont il comprit qu'elle était censée symboliser le rire.
« Il te fait rire ?»
Accroupi dans son coin, Patrick fit oui de la tête. Son visage se tordit encore plus. Il serra les poings et les porta à son visage. Il se lissa les joues, puis fit mine de se frotter les yeux et leva le regard vers elle. Susanna remarqua qu'il avait une petite cicatrice sur l'arête du nez.
« Il te fait pleurer aussi. »
Le garçon hocha de nouveau la tête. Il rejoint la mimique du rire en se tenant l'estomac dans un « ho 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 » muet. Puis il refit la mimique des pleurs, essuyant des larmes imaginaires roulant sur ses joues duveteuses. Cette fois-ci, il ajouta un troisième élément à sa momerie, mettant les mains en coupe et les portant à sa bouche avec un bruitage ressemblant vaguement à « miam miam ». De derrière elle, légèrement en hauteur, elle entendit la voix de Roland qui récapitulait.
« Il t'a fait rire, il t'a fait pleurer, et il t'a fait manger aussi. »
Patrick secoua la tête avec une telle violence qu'elle alla heurter le mur qui délimitait le coin dans lequel il se tapissait.
« Lui, il mangeait ?» fit Déta. « C'est ça que t'essaies de dire, pas vrai ?»« Dans de l'eau mangeait. »
Patrick acquiesça avec empressement.
« Il t'a fait rire, il t'a fait pleurer, et puis il a mangé ce qui sentait. Parce que c'est comme ça qu'il fait. »
Patrick opina de nouveau et fondit en larmes. Il émit une série de geignements inarticulés. Susanna s'avança doucement à l'intérieur de la cellule, ses dents de ses paumes prêtes à battre en retraite si Patrick recommençait à se taper la tête sur le mur. Ce ne fut pas le cas. Lorsqu'elle arriva près du garçon recroquevillé dans son coin, ce dernier posa la tête contre sa poitrine et se mit à sangloter. Susanna tourna la tête vers Roland et lui indiqua du regard qu'il pouvait maintenant entrer. Lorsque Patrick leva les yeux vers elle, c'était avec un air d'adoration muette, comme un chien regardant son maître.
« Ne t'inquiète pas, »
dit Susanna. Déta était reparti, sans doute dégoûté par tous ses bons sentiments.
« Il ne te fera plus de mal, Patrick, parce qu'il est aussi mort qu'une brique au fond de la rivière. Maintenant, je voudrais que tu fasses quelque chose pour moi. Je veux que tu ouvres la bouche. »
Patrick secoua immédiatement la tête. La peur était revenue dans ses yeux, mais elle y vit surtout quelque chose qui la révolta encore plus. Elle y vit de la honte.
« Si, Patrick, si. Ouvre la bouche. »
Il secoua de nouveau violemment la tête, ses longs cheveux graisseux lui fouettant les épaules de droite et de gauche, comme l'extrémité d'un balai à franges.
« Qu'est-ce que... » fit Roland.
« Chut. Ouvre la bouche, Patrick, et montre-nous. Ensuite, nous t'emmènerons loin d'ici et tu n'auras plus jamais à y revenir. Tu ne seras plus jamais le dîner de Dents de l'eau. »
Patrick la considéra d'un air suppliant, mais Susanna se contenta de lui rendre son regard. Il finit par fermer les yeux et par ouvrir lentement la bouche. Ses dents étaient bien là, mais pas sa langue. Il avait dû venir un moment où Dents de l'eau s'était lassé d'entendre la voix de son prisonnier, ou les mots qu'il était capable d'articuler, du moins, et il lui avait arraché la langue.